Je vais prendre la parole puisqu'on l'a fort gentiment demandé au nom de l'Odéon, Théâtre de l'Europe, dont je suis secrétaire général, pour dire et vous dire l'immense plaisir qu'on a bien évidemment à accueillir une grande et belle maison d'édition comme Gallimard, et en l'occurrence cette collection consacrée au théâtre. Vous savez que cette collaboration avec Gallimard existait déjà sous la précédente direction avec Olivier Pie. Ce théâtre est aujourd'hui dirigé par une personnalité très différente. Il s'agit de Bondy, dont vous avez peut-être pu voir le retour de Pinter récemment. Mais bien évidemment, toute cette action menée en direction de la littérature et plus généralement de la philosophie et de la réflexion portée sur la littérature, la philosophie, bien entendu le théâtre, reste au cœur des préoccupations de la nouvelle direction et cette maison de théâtre. Donc on est particulièrement honoré et heureux d'accueillir ce soir M. Baquès, M. Tadier. Merci beaucoup donc d'ouvrir ce premier opus. Et mademoiselle, Marie Dompier, voilà, qui joue actuellement sur un Marivaux que je n'ai pas encore eu le plaisir de voir, et qui va donc jouer trois rôles.
Lire des extraits
ce soir. Voilà, j'espère que vous avez vu qu'on avait quitté un programme un peu conséquent qui s'appelle les Bibliothèques de l'Odéon. Ces rencontres s'inscrivent dans un cadre beaucoup plus large, en grande salle et au salon Roger Blin. On espère bien pouvoir poursuivre l'année prochaine. Donc c'est le premier opus de cette nouvelle saison. Je crois que Jean-Yves Tadier, vous aviez envie peut-être de dire quelques mots également.
Envie n'est pas le mot, mais je le ferai cependant. Je remercie d'abord, bien sûr, la direction de Théâtre de l'Odéon d'avoir, avec le dynamisme, organisé ces séances pour nous. Il s'agissait en effet pour Gallimard de célébrer le 20e anniversaire de la création de la collection Folle au théâtre. Il y a 20 ans, en effet, qu'il a été décidé de publier des pièces à peu près dans les mêmes règles que la collection Folio Classique dont je m'occupais aussi, c'est-à-dire l'établissement d'un texte qui passe autorité, une préface d'un grand spécialiste, en général, mais pas toujours, professeur d'université, et un dossier critique comportant une quarantaine de pages d'analyse, de notes, et surtout un élément original mais propre au théâtre, c'est un historique de la mise en scène, au moins depuis le temps où il y a des mises en scène, puisque, comme on sait, la mise en scène est une invention relativement récente. En tout cas, personne ne sait exactement comment le jeu des acteurs a été mis en scène au temps de Sophocle, même si on sait où se trouvait le chœur et l'orchestre. Donc, cette collection s'est partagée à peu près également entre des pièces dites classiques, c'est-à-dire jusqu'à la fin du XIXe siècle, et des pièces qui, alors, étaient modernes, c'est-à-dire des pièces du XXe, et pour les raisons notamment de droit, ces pièces étaient le plus souvent tirées, ou ont été, du répertoire de Gallimard, puisque depuis la création de la NRF, à laquelle était associé Jacques Copeau, qui a été quelque temps son directeur, puis Gaston Gallimard, ils ont eu la passion du théâtre. Ils ont été notamment associés très directement à la marche d'un théâtre qui fête aussi son centenaire, je crois, c'est le Vieux Colombier. Donc, ce goût pour le théâtre a permis d'enrichir la collection d'un certain nombre d'auteurs du XXe siècle, et notamment, bien sûr, de toutes les pièces d'Ionesco. Excusez-moi. Donc, ce soir, nous commençons, comme il est normal, par une pièce grecque. Il faut dire que la thématique retenue est celle même du théâtre de l'Odéon cette année, c'est-à-dire l'exil. Les six pièces que nous allons donner célèbrent, explorent la thématique de l'exil. Dans Antigone s'est exilée pour accompagner son vieux père mourir à Colonne lorsqu'il a été chassé de Thèbes, et là elle revient à Thèbes où visiblement elle n'aura pas sa place. Et ce sera la même la même thématique dans la belle pièce de Joyce dont nous parlerons au début de février, qui s'appelle Exil. Ce sera encore le cas de l'échange de Claudel le mois suivant, et encore le cas de l'exil intérieur dans la folie qu'illustre Pirandello, le Henri IV. Et ce sera aussi, dans Le Marchand de Venise, l'exil perpétuel des Juifs avec le personnage de Charlie Locke. Il y aura donc, vous le voyez, des textes très variés et de langues et de littérature différentes. Pour ce qui est de... Et à chaque fois, donc, des scènes seront lues par des acteurs. Ce soir, c'est donc Marie d'Ancenier qui joue La seconde surprise de l'amour en tournée et qui le jouera le 26 janvier à Créteil. Je vais donner maintenant la parole à mon ami Jean-Louis Baquès, professeur émérite à l'Université de Paris-Sorbonne, qui est spécialiste de tout, mais aussi spécialiste de grec, et qui a fait dans le classique l'édition d'Antigone, qui vous sera lu dans la très belle traduction d'une grande poésie due à Jean Grosjean. Traduction qui a d'abord figuré dans la Bibliothèque de la Pléiade et ensuite dans Folio Théâtre. Donc la scène qui sera, la première scène qui sera lue, peut-être pourrais-tu nous dire en quelques mots.
Je vais vous abandonner, je vais retourner. Un tout petit mot avant de vous redonner la parole pour remercier Marie-Hélène Boulan, que vous voyez beaucoup plus souvent que vous ne me verrez. Et qui s'occupe voilà, de coordonner, d'animer, d'organiser toutes ces manifestations des bibliothèques. Donc c'est évidemment vers elle qu'il faut se retourner pour les compliments, tout autant que pour les réclamations. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.
Bon, alors, chacun sait que dans Antigone, il est question des lois non écrites. On peut ne pas savoir dans quelles conditions, mais il faut les lois non écrites. Alors nous allons commencer par évoquer les lois non écrites. Il s'agit d'une... Les Grecs appellent ça un combat, un agone, un discours contre discours entre Créon qui ne veut pas que Polynice, on verra plus tard pourquoi, soit enterré rituellement, et Antigone qui passera outre aux interdictions de Créon. Donc c'est Créon qui, d'emblée, quand on a arrêté Antigone, l'attaque en lui disant « Savais-tu la défense que j'avais proclamée ?» Et elle lui répond tout de suite. Après, il reprendra la parole.
Quant à toi, Antigone, dis-moi d'un mot, sans phrase. « Savais-tu la défense que j'avais proclamée ?»« Oui. Comment l'ignorer ? Elle était publique. Et ainsi, tu as osé passer outre à mes lois ?»« Oui. Car ce n'est pas Zeus qui les a proclamées, ni la justice qui habite avec les dieux d'en bas. Ni lui ni elle ne les ont établies chez les hommes. Je ne pense pas que tes décrets soient assez forts pour que toi, mortel, tu puisses passer outre aux lois non écrites et immuables des dieux. Elles n'existent d'aujourd'hui ni d'hier, mais de toujours. Personne ne sait quand elles sont apparues. Je ne devais pas, par crainte des volontés d'un homme, risquer que les dieux me châtient. Je savais bien que je mourrais, n'est-ce pas, même sans ta proclamation. Et si je meurs avant le temps, je dis, moi, que ce m'est un gain. Quand on vit comme moi parmi tant de malheurs, comment ne pas trouver qu'on gagne à mourir ? Subir ce sort n'est pas pour moi une souffrance, mais c'en serait une d'avoir laissé sans sépulture après sa mort le fils de ma mère. J'en aurais souffert. Mais à présent, je ne souffre pas. Et si je te semble avoir agi en folle, peut-être suis-je accusé de folie par un fou ? Le coryphée à Créon. Cette rude fille se montre l'enfant de son rude père. Elle n'a pas appris à céder au malheur. Créon. Sois certain que ces volontés trop dures sont celles qui se brisent le plus. C'est le fer le plus fortement cuit au feu et durci qu'on voit se fendre et se rompre le mieux. Et les chevaux impétueux obéissent au moindre frein, car il ne sied pas de faire le fier quand on est au pouvoir d'un maître. Elle savait bien quelle bravade c'était que de passer outre aux lois établies. Après quoi, ce fut une seconde bravade que de s'en vanter et de s'en réjouir. Maintenant, je ne suis plus un homme, c'est elle l'homme, si elle triomphe ainsi impunément. Mais qu'elle soit née de ma sœur, qu'elle me soit plus proche que tous ceux qui dépendent du Zeus de notre maison, elle n'échappera pas à une mort infâme, ni sa sœur non plus, car je soupçonne celle-ci d'être complice de l'ensevelissement. Appelez-la donc. Je viens de la voir au palais hors d'elle, ne se possédant plus. Ceux qui agissent sans droiture dans l'ombre dénoncent par là les premiers leur fourberie. Mais certes, je hais quiconque, pris sur le fait, cherche à se glorifier de son crime. Veux-tu, Créon, plus que ma mort, maintenant que tu m'as prise ? Moi ? Rien d'autre. Si j'ai cela, j'ai tout. Que tardes-tu donc ? De toutes tes paroles, aucune qui me soit agréable n'y puisse jamais l'être, et les miennes aussi sont de nature à te déplaire. Pouvais-je obtenir gloire plus glorieuse que de donner à mon frère une sépulture ? Tout ceci en conviendrait si la crainte ne fermait leur bouche. Mais la tyrannie a cette chance, entre autres, de faire et de dire ce qu'elle veut.
Jean-Louis, est-ce que tu peux nous rappeler de quoi il s'agit évidemment dans cette scène et de quoi il s'agit dans la pièce ? Tout le monde le sait, mais il y a plusieurs manières de concevoir cette pièce.
Alors, c'est une histoire qui est bien connue. Les deux fils d'Édipe étaient en rivalité. Ils avaient admis qu'ils seraient rois l'un après l'autre, chacun un an. Et au bout de l'année, Étéocle a déclaré que ça n'était pas possible et qu'il avait l'intention de continuer à régner. Alors Polynice s'est exilé, et là-dessus il a commis ce qui, de fait, pour un Grec est une grande faute. Il a utilisé l'armée d'Argos, une autre ville, et il est venu reconquérir son trône, les armes à la main, avec les armes des étrangers. Donc, il est, d'une certaine manière, traître à sa patrie. Bon, les deux frères se sont affrontés, ils sont morts tous les deux dans ce combat, et c'est parce que Polynice est considéré comme un traître que Créon a décidé, ce qu'il appelle une loi, Créon a décidé que, alors qu'Étéocle serait enterré avec tous les honneurs, Polynice serait simplement laissé aux chiens. C'est une décision imprudente, mais ça, c'est une autre histoire.
Et alors, dans la scène que nous venons d'entendre, est-ce qu'il y a des thèmes que tu souhaites immédiatement souligner ?
Bien, le thème à souligner, c'est le mot « loi ». Créon dit, et Jean Grosjean l'a parfaitement traduit, cette traduction est une splendeur, outre qu'elle se met en bouche, que c'est un bonheur. Bon. Créon parle de ses lois, et Antigone conteste le mot de loi. C'est un décret, c'est une proclamation, dit littéralement le grec. On a fait proclamer cela. Mais c'est la volonté d'un homme, et ça n'a rien à voir avec ce que sont les vraies lois. Autrement dit, quelque part, elle s'inscrit en faux contre les interprétations des philosophes romantiques allemands, et notamment de Hegel, qui soutient que cette pièce est un conflit entre la morale politique et la morale religieuse, d'une certaine manière, entre les lois de la cité et les lois éternelles, les lois des dieux. Du point de vue d'Antigone, il n'y a pas de conflit. Créon n'a pas à légiférer dans une affaire de ce genre. Les lois des dieux s'imposent d'elles-mêmes. Elles ont toujours existé. Et c'est sur des mots que se fait cette discussion, Antigone récuse le droit de Créon à parler de loi quand il n'a fait que proclamer une volonté qui d'ailleurs, quand on lit la pièce, apparaît bien, bien vacillante. Créon est quelqu'un qui fabrique des lois à toute vitesse et qui change d'avis avec une rapidité étonnante.
Est-ce qu'il y a eu à diverses époques, des justifications de Créon, du personnage de Créon?
Oui. Alors, il y a deux choses. Il y a le discours de Hegel, bien entendu, et d'un certain nombre de ses disciples. Et il y a autre chose qui est ce que Anouilh a fait de l'Antigone de Sophocle, en disant très bien qu'il ne prétendait pas faire une adaptation, faire une rénovation, il faisait une variation sur un thème ancien. Et il est vrai que dans l'Antigone d'Anouilh, le personnage de Créon prend une importance énorme, un poids énorme. Il n'est plus du tout cette espèce de velléitaire qu'est assez souvent, assez visiblement, le Créon de Sophocle. Et il s'oppose à une Antigone qui est aussi très, très nouvelle, d'une certaine manière. Elle n'a pas cette rigueur, cette majesté qu'a l'Antigone de Sophocle. C'est une petite fille toute maigre qui, alors là, c'est la grande invention d'Anouilh, cette scène bouleversante, qui ne sait plus où elle en est. C'est cette scène qu'Anouilh a inventée, où Antigone, qui attend la mort, parle avec le garde. Et le garde lui raconte des histoires de primes, de salaires, les salaires ne sont pas versés, l'ordinateur de l'armée est en panne, enfin bon. Et cette discussion est terrible, parce que le garde parle, et Antigone, à un moment, lui dit, tu sais, je vais mourir. Et dans cette heure-là, elle s'aperçoit brutalement qu'elle ne sait plus pourquoi elle meurt. Alors, c'est ce que nous avons un peu tous dans la tête. Ça, c'est l'invention d'Anouilh. Il n'y a rien de semblable dans Sophocle. En particulier, le rôle du garde a disparu dès le début de la pièce.
Alors, nous revenons en 442 avant Jésus-Christ, à peu près, la date supposée de la pièce. Comment situer brièvement Sophocle dans l'histoire du théâtre ?
Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est le numéro 2. Donc on a un peu tendance à penser que le premier, Eschyle, est le primitif, est encore un peu barbare, que le troisième, Euripide, est déjà un décadent, et que Sophocle représente la perfection. C'était l'avis d'Aristote, dans la poétique d'Aristote, qui est essentiellement une réflexion sur la tragédie. La tragédie modèle, la plus belle qu'on puisse imaginer, c'est l'Œdipe roi de Sophocle. L'Œdipe roi qui est postérieur à Antigone. Mais peu importe, dans la tradition, cette idée reste. Sophocle étant le plus grand moment de l'histoire de la tragédie grecque. Alors, ça n'est pas pour rien que, en 1585, si je ne me trompe, pardonnez-moi, au moment où il est inauguré le théâtre de Vicence, un théâtre, le premier théâtre complet, fabriqué par le Palladio, un théâtre fixe, un théâtre à l'antique, plus ou moins, avec un toit quand même, on a joué l'Œdipe roi de Sophocle, bien entendu, en italien, bien entendu, mais avec de la musique. Et quelques temps après, donc en 1842, si je ne me trompe, à Berlin, on a eu l'idée de jouer une pièce antique, de la jouer telle qu'elle est, pas de jouer une adaptation, ce qui s'est toujours fait partout ailleurs, l'Œdipe dont je vous parle est une exception. On a voulu recréer une pièce antique avec de la musique. On a demandé à un certain Félix Mendelssohn de faire la musique, ce qu'il a fait, une musique très, très simple, très, très hiératique, et ça a été un très grand succès. Et du coup, il y avait à Paris des gens qui se sont lancés là-dedans. Et on a créé l'Antigone de Sophocle en 1840 quelque chose, ici. Traduction, Maurice Evacri, musique de Mendelssohn qui avait été reprise. On connaît la chose en particulier à cause d'un très bel article publié dans l'Artiste, si je ne me trompe, qui a l'impression vraiment que c'est une résurrection. Alors il n'a pas encore écrit, l'auteur de l'article n'a pas encore écrit ils reviendront, ces dieux que tu pleures toujours. Il y a pourtant un rapport. Oui, il s'appelle Gérard de Nerval, tout simplement. Voilà. Et alors donc, la première pièce qui a été jouée, la première pièce antique qui a été jouée comme telle à Paris, c'était celle-ci. À cette époque-là, on jouait, à Richelieu, on jouait un Œdipe, je ne sais plus si c'est l'Œdipe de Voltaire ou celui de Corneille, enfin un Œdipe avec beaucoup d'arrangements, d'aménagements, de belles histoires d'amour, etc. etc. Et Nerval, quelque part, dans le coin d'une phrase, s'en amuse un petit peu, fait une opposition entre la simplicité de ligne de la pièce de Sophocle et puis tous les embellissements qu'on a ajoutés à une autre pièce de Sophocle, à l'Œdipe. Sophocle pourrait être le zénith de la tragédie grecque, et pourtant, on sait très bien qu'il est aussi le dernier. J'entends que son Œdipe à Colonne, qui est sa dernière pièce, a été créé, je crois, à un moment où Euripide était déjà mort. Donc il a toujours, d'une certaine manière, régné sur le théâtre grec.
Il a vécu plus de 80 ans, d'ailleurs.
Il a vécu fort.
Et Euripide et Sophocle sont morts la même année. Alors, il y a un paradoxe, puisque nous croyons tous qu'il y a une trilogie composée de Œdipe roi, Œdipe à Colonne et Antigone. Or, Antigone est la première pièce de cette pseudo-trilogie. Cependant, les spectateurs du 5e siècle connaissaient tous parfaitement l'histoire d'Antigone et de sa famille.
Alors, l'histoire de la famille, sans aucun doute. De toute façon, toutes les histoires de la tragédie grecque sont des histoires de famille. Mais l'histoire d'Antigone, ça n'est pas sûr. Il y a des gens, enfin, des spécialistes. Je ne suis pas spécialiste. Bon, il y a des gens qui estiment que Sophocle peut avoir inventé la légende d'Antigone telle que sa pièce la présente. D'autre part, il ne faut pas se tromper. Nous connaissons une trilogie, une seule, qui est l'Orestie d'Eschyle. Trois pièces qui se suivent, qui racontent des moments différents d'une même histoire. Mais c'est un cas peut-être exceptionnel. La plupart des trilogies, pour autant que nous les connaissions, souvent nous n'avons que des titres, n'ont pas d'unité visible, en tout cas pas d'unité narrative. Je ne sais même plus si on sait avec quelle pièce Sophocle a construit sa trilogie. Enfin, il faut se rappeler que les pièces ne sont pas jouées dans un théâtre de professionnels. Il s'agit d'une espèce de cérémonie publique. Il y a un concours de tragédie à l'occasion de certaines fêtes. Des citoyens sont chargés de présenter un chœur. Et le chœur doit jouer trois tragédies plus un drame satirique. Ça, c'est le cahier des charges, si vous voulez. Mais il n'est pas sûr du tout qu'on soit obligé de faire trois tragédies qui racontent la même histoire. En tout cas, tu l'as très bien rappelé, c'est vrai, ces trois pièces qui ont été conservées, nous avons conservé 7 pièces de Sophocle, il en a certainement fait au moins une centaine, ces trois pièces qui ont été conservées ont été créées à des moments extrêmement différents. Antigone, dans la relative jeunesse de Sophocle, Œdipe roi, plutôt au milieu, et Œdipe à Colonne, juste pour finir.
Le thème des frères ennemis qui s'affrontent pour le pouvoir est bien connu du public, et aussi celui d'Œdipe roi, puisque chez Homère, déjà, dans l'Iliade, et notamment, il y a des mentions de l'histoire tragique des Labdacides, et comme toute tragédie d'histoire de famille, on peut rappeler qu'avant même que la pièce ne commence, le public sait que cette famille est l'objet d'une malédiction divine et que finalement tout le monde périra. Et alors cette malédiction des Labdacides est quelque chose d'assez singulier. Est-ce que tu peux la rappeler?
Alors, le nom d'Œdipe est cité dans l'Iliade une fois. Dans l'Odyssée, aux enfers, Ulysse rencontre, alors faut-il dire la mère d'Œdipe ou sa femme? C'est le même personnage. Jocaste donc, et il y a une allusion à cette situation terrible qui a des conséquences, les conséquences que vous imaginez. Vous n'êtes pas obligé de me croire, moi je suis convaincu que c'est une histoire vraie. Que l'histoire de la rivalité entre les deux frères qui finissent par se tuer est vraie aussi. On n'invente pas ces choses-là. Bien. Et la tradition les porte depuis très longtemps. Ce que la tradition ne portait peut-être pas, c'est ce que Sophocle raconte très précisément dans cette pièce. Alors pourquoi y a-t-il une malédiction ? Ça pourrait bien être une invention des poètes. Les poètes ont passé leur temps à inventer des histoires pour expliquer les traditions. Donc on a inventé que Laios avait lui-même commis, j'entends le père d'Édipe, avait lui-même commis des crimes qui devaient être punis par les dieux. Enfin, on a inventé toutes sortes de choses. À vrai dire, les poètes inventent à peu près toujours la même chose. S'il y a un malheur quelque part, c'est parce qu'on a offensé les dieux. Il y a d'innombrables tragédies et histoires grecques qui fonctionnent exactement comme la Belle au bois dormant. On a oublié d'inviter la fée, et elle vient et elle dit « Je prédis qu'elle se piquera la main d'un fuseau et qu'elle en mourra bon, ». C'est comme ça que ça marche. Mais ça, ce sont des inventions de poètes. Les poètes sont là pour inventer des choses. Il ne faut pas oublier que ce que nous appelons la mythologie, ça n'a rien à voir avec des récits religieux respectables. C'est le jouet des poètes, et les gens sont ravis que les poètes jouent avec les récits respectables prétendus tels.
Donc, dans l'histoire de la malédiction de cette famille, qui est invoquée plusieurs fois dans la pièce,
oui.
L'Abdacide, l'Abdacos avait confié son fils à Laios, et Laios, futur père d'Édipe, et Laios a abusé de ce fils. C'est un crime, parce que c'est un viol, et pas parce que c'est un acte homosexuel, c'est un viol, et donc l'Abdacos maudit de père en fils. Laios. Et c'est pour ça que Laios, c'est notamment que pour ne pas être maudit de père en fils, il vaut mieux ne pas avoir de fils. Donc, il ne s'approche pas de sa femme Jocaste, sauf un jour où, ayant trop bu, arrive ce qui devait arriver, c'est-à-dire, finalement, un enfant. Cet enfant, vous savez...
C'est de la mythologie. C'est de la mythologie pour pensionnats. C'est de la mythologie où on découvre les mythes pour leur faire dire quelque chose. Tu es en train de fabriquer un mythe anti-alcoolique. Après...
Non, c'est comme ça que...
Oui, non, mais c'est comme ça qu'un certain nombre de poètes ont raconté les choses. Oui.
Mais c'est intéressant, c'est qu'en même temps, les véritables crimes n'ont pas été commis par Édipe, mais par Laios. Qui est à la fois un violeur, un pédophile et un infanticide. Donc, et alors, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup plus tard, un célèbre savant viennois n'a pas choisi le père, mais le fils. Bon, il aurait très bien pu inventer un complexe de Laios qui aurait été tout aussi intéressant, mais dont on ne parlera pas. Donc, la pièce est bourrée d'allusions au contexte religieux et mythologique. Et il est très frappant de voir le souci qu'ont les personnages, surtout Antigone d'ailleurs, de se replacer dans une histoire, qui est l'histoire en même temps d'une histoire religieuse, une histoire sacrée, et le cœur lui-même d'ailleurs dialoguera avec elle sur ce thème, notamment à propos du personnage célèbre de Niobé, qui elle-même connaîtra d'affreux malheurs. Donc cet aspect sacré, est-ce que tu ne crois pas que c'est un aspect important de la pièce ?
Ah si, absolument. Absolument. Les dieux sont présents, les morts sont présents. Il y a tout un arrière-monde autour de ce lieu scénique. Et peut-être d'ailleurs... le conflit entre Antigone et son oncle, puisque Créon est son oncle, hein, Créon est le frère de Jocaste. Donc il est son oncle, et donc il est son beau-frère par la même occasion, puisqu'elle est la fille de sa mère, mais en même temps la sœur de sa mère, puisqu'elle est... Enfin bon, vous voyez la complication de la chose. Bon, le conflit entre Créon et Antigone tourne finalement autour de ça, peut-être que Créon ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Il veut simplement célébrer la victoire, punir ceux qui lui paraissent devoir l'être et respecter ceux qui ont gagné, même s'ils avaient commencé par ne pas respecter leurs promesses. Antigone voit beaucoup plus loin. Et c'est ça qui se joue peut-être dans cette grande lamentation qu'elle chante pour finir. Parce qu'il faut le rappeler. On dit, dans la tragédie grecque, il y a des acteurs qui parlent et un cœur qui chante. C'est vrai, mais il y a des moments où les acteurs se mettent à chanter eux-mêmes. Et même dans l'Antigone, à un moment, Créon se met à chanter. On n'imaginerait pas que ce personnage qui a des œillères soit capable de chanter. Ça fait partie des choses. Il y a des moments, alors dans d'autres tragédies tout à fait étonnants, où... une réplique est chantée, une réplique est déclamée, une réplique chantée, une réplique déclamée, avec une vitesse extraordinaire. Les Occidentaux n'ont pas été de taille à comprendre ça. Ils voulaient rétablir, ressusciter la tragédie, alors ils ont inventé la tragédie, ils ont inventé l'opéra. Ils n'ont pas trouvé le lien. Alors, vous allez chanter ?
Je vais vous le dire.
De rappeler la situation.
Donc, Créon a décidé, contre toute raison, d'envoyer Antigone à la mort. En fait, alors, il a commencé par dire qu'il ferait tuer aussi Ismène, la sœur d'Antigone, qu'il a accusée de lui avoir prêté main forte. Et puis, il change d'avis. Et puis, Antigone... comme il avait dit que si quelqu'un prétendait accomplir les rites sur le cadavre de Polynice, il serait mis à mort. Donc il va mettre à mort Antigone, et puis il n'ose pas. Alors, on va mettre Antigone dans un trou, une caverne. Elle mourra de faim peut-être. Enfin,
vivante.
On ne l'aura pas vraiment tué. C'est pas un personnage tellement enthousiasmant, Créon. Bon. Et peu importe. Et donc, on emmène Antigone, et ce sont donc les dernières paroles qu'elle prononce.
Ô tombe, ô chambre nuptiale, ô caveau, prison perpétuelle où je me rends auprès des miens. Ces morts sans nombre que Perséphone a reçus chez les défunts, où je descends à la dernière, et combien la plus malheureuse, avant d'avoir achevé ma part de vie. En partant, je nourris du moins le ferme espoir d'arriver aimée de mon père, et chérie de toi, mère, et chère à toi, ô mon frère, puisque j'ai de mes mains lavé, paré vos corps, vous ai versé les funéraires libations. Et maintenant, moi qui ai enseveli ton corps, Polynice, voilà ma récompense. Certes, pour les sages, j'ai eu raison de t'honorer. Jamais, non, si j'avais eu des enfants, ni si mon mari mort eût pourri sur le sol, je ne me serais donné ce mal contre le gré des citoyens. Au nom de quelle loi parler ainsi ? Mon mari mort, je pourrais en avoir un autre, ou mon enfant en avoir d'un autre, mais ma mère et mon père, une fois dans l'Hadès, il ne me naîtra plus jamais de frère. Voilà pour quelle loi je t'ai de préférence honorée, ô mon frère, bien qu'à Créon se semble une faute et une terrible audace. Maintenant il m'a prise, il m'emmène, sans que j'aie eu de mari ni de noces, sans que j'aie été épouse ni mère. C'est dans la solitude et le malheur que je m'en vais vivante à la fosse des morts. Quel droit divin ai-je transgressé ? Mais à quoi bon regarder vers les dieux ? Lequel appelé à mon secours puisque ma piété me fait passer pour impie ? Ah, si les dieux approuvent ce traitement, je le subirai, je reconnaîtrai ma faute. Mais si la faute vient des autres, puissent-ils ne pas subir plus de mal qu'à tort ils ne m'en font. Oh, voici la parole la plus proche de la mort. Ô ville de Thèbes, ma patrie, et vous, dieux ancestraux, sans effet, on m'emmène. Regardez, fils des chefs thébains, la dernière de vos princesses, et ce que je souffre, et par qui, pour mon pieux respect de la piété.
Veux-tu ajouter quelque chose sur cette scène même?
On a affaire à des gens qui croient au langage. Mon pieux respect de la piété. Il y a des gens qui diraient que c'est un calembour. Un calembour qui veut dire beaucoup de choses. Mais vous l'avez entendu tout à l'heure à la fin de la... face à face avec Créon, où elle disait « Si je suis folle, c'est un fou qui m'a traité de folle. Enfin, » la parole existe et la parole a vraiment du poids. Ces pièces se passent uniquement en discours, mais en discours qui vont loin.
C'est peut-être voilà. Le moment d'ailleurs de rappeler qu'il y a plusieurs personnages, que Antigone ne se réduit pas à Antigone, ni même au dialogue entre Antigone et Créon. Il y a la pièce sourde sur un dialogue entre les deux sœurs, Ismène et Antigone, qui ont une position différente. Et Antigone est un fiancé que d'ailleurs elle ne nomme pas. On la voit évoquer le fait qu'elle va mourir sans être mariée, sans avoir l'enfant. Mais elle ne fait pas allusion à Aemon, le fils de Créon, qui est son fiancé, et qu'on voit peu, mais dans une scène très impressionnante. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur la structure des personnages?
Alors, il faut se rappeler que tous les rôles, il y en a une petite dizaine, sont joués par trois comédiens. Donc, le récit ne s'organise pas comme dans les tragédies classiques, où on essaie toujours de se débrouiller pour que A rencontre B, mais A a une scène avec C, A a une scène avec D, D a une scène avec B. Enfin, ça serait très difficile de jouer une pièce de Corneille avec trois comédiens seulement. Il faut un comédien par personnage. Là, il y a trois comédiens seulement, donc les personnages sont presque tous des personnages épisodiques, sauf Antigone et Créon, qui reviennent à plusieurs reprises, bien entendu. Alors, Aemon. Aemon est un personnage qui a, je crois, beaucoup souffert de la tradition. Je disais, c'est au milieu du XIXe siècle que, pour la première fois, on a joué le texte de Sophocle tel quel, en traduction, bien entendu, mais tel quel. Mais il y a eu, depuis le XVIe siècle, d'innombrables adaptations d'Antigone. Et toutes ces adaptations ont tendu à exagérer le rôle de Créon et à lui donner beaucoup d'importance parce que ça faisait une histoire d'amour. On ne peut pas faire de tragédie classique s'il n'y a pas d'histoire d'amour, ça ne tient pas debout. On en a mis, enfin, Corneille et Voltaire en ont mis dans Édipe, pourquoi pas. Anouilh lui-même a donné beaucoup d'importance à Aemon pour la même raison, comme si le théâtre de boulevard et la tragédie classique avaient les mêmes exigences. Bon, dans le texte de Sophocle, Aemon n'a que peu de place, si vous voulez. Mais son rôle est très important, pour plusieurs raisons. D'abord, on est dans une société patriarcale et on ne s'oppose pas à son père. Aemon pense ce qu'il veut, et ce qu'il pense n'est pas aimable pour Créon, mais il a beaucoup de mal à arriver à le dire. Bon, il finit par le dire, effectivement. Mais vous savez peut-être comment ça se termine. Il est tout près de ce trou où on a enfermé Antigone et où elle s'est pendue. Et Créon s'approche, tout ça est raconté, bien entendu, on ne le voit pas sur la scène. Créon s'approche et Aemon a tiré son épée. Quelqu'un va-t-il se persuader que Aemon va porter la main sur son père, ce serait épouvantable, c'est quelque chose d'absolument inimaginable. J'aurais des choses à dire là-dessus. Eh bien non, il ne peut pas s'opposer à son père, alors il se suicide. Il y a là des choses que nous avons du mal peut-être à comprendre. On est vraiment dans une autre société. Vous savez, une société où le criminel innocent est d'abord criminel. L'histoire terrible d'Édipe. Bon, tu as raison de rappeler tout ce que tu as rappelé. Mais imaginez aujourd'hui un homme qui, sans le connaître, tue son père et qui, sans la connaître, épouse sa mère. Ça s'appelle coups et blessures, ayant donné la mort sans intention de la donner. Ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il n'y a pas de parricide possible, il ne savait pas qui c'était. Nous nous sommes intéressés à l'intention du prévenu. Pour les Grecs, celui qui a commis un crime, objectivement, est quelque chose d'épouvantable. Même s'il est à peu près innocent. Même s'il pourrait plaider l'innocence. Et c'est ça qui est dans la tragédie. C'est cette présence à Thèbes de l'ombre d'Édipe. Ici, il a disparu, il est mort. Mais cette présence de l'ombre du criminel abominable. Alors, Hémon, au contraire, est l'innocence même, et il en mourra. Son père aura tout perdu, d'autant que la mère d'Hémon, donc la femme de Créon, elle apparaît à l'extrême fin de la pièce. On raconte beaucoup dans les pièces grecques, on lui raconte tout ce que je viens de vous dire sur la mort d'Antigone et celle d'Hémon, et elle ne dit rien. Et elle rentre dans le palais. Personne ne la reverra vivante. C'est la catastrophe que Créon a lancée, a provoquée. Je vous disais tout à l'heure, c'était très imprudent. Il faut des rites. Purement symbolique, hein, jeter de la poussière sur le cadavre, au moins, si on n'arrive pas à l'enterrer. Verser ce qu'on appelle des libations. Il faut des rites, parce que si les rites n'ont pas été accomplis, eh bien le mort ne s'en va pas dans l'Hadès, dans le lieu invisible, dans le lieu obscur. Le mort n'est pas en repos. Et il reviendra. Et on l'entendra hurler dans la rue. Et il nuira à ceux qui ne l'ont pas enterré. Créon est d'une imprudence folle. Et on en a fait un chef d'État. C'est la folie. Au début des dix proies, on voit arriver Tirésias. Tirésias le devin. Tirésias prévient Édipe. Il dit : « Tu es en train de chercher qui a tué Laïos. Prends garde. » C'est au début. Édipe ne le croit pas. Heldaline disait : « C'est très drôle. Dans Édipe, la césure du verre est au début du verre. Tirésias, c'est la césure. Dans Antigone, c'est à la fin. » Il joue bien entendu sur les césures de l'hexamètre homérique, césures, peu importe. Dans Antigone, la césure est à la fin, Tirésias intervient. Au moment où il va être trop tard, ou en fait il est déjà trop tard. Alors Tirésias, vous savez, c'est le devin. C'est un homme extraordinaire, c'est un homme qui sait tout, qui sait, selon la formule classique, ce qui était, ce qui est, ce qui sera. Vous savez que c'est lui que Ulysse est allé consulter sur le bord des enfers, au bout du monde. On récupère régulièrement Tirésias. Alors pourquoi Tirésias sait-il des tas de choses? Ça, c'est une autre affaire. Il y a des variantes à n'en plus finir là-dessus. Mais pour l'instant, sachons que c'est lui qui sait tout. Et évidemment, s'il sait tout, c'est parce qu'il est aveugle. Il y a cette espèce d'étonnante superposition. Ce que nous connaissons, Édipe qui s'est crevé les yeux et qui part sur les routes de l'exil en s'appuyant sur l'épaule d'une petite fille qui s'appelle Antigone, on a représenté la chose 36 fois, et là, on voit entrer Tirésias, aveugle, s'appuyant sur l'épaule d'un petit garçon qui est juste une utilité, mais qui est un symbole extraordinaire.
Et c'est pendant, en effet, le discours de Tirésias, qui était un monologue, pour parler d'un dialogue, que la dernière chance de Créon passe. Il y a un moment tout à fait bouleversant dans le texte, où on sent que Créon pourrait encore sauver sa future belle-fille, son fils, etc., et la cité. Et puis, à un moment, à la fin, où il est trop tard, la chance est déjà passée.
Mais il ne va tout de même pas se déjuger. Enfin,
il passe mais s'il se déjuge finalement.
Bien sûr, que... il le fait. Mais il hésite quand même. Et puis, le fond de l'histoire, c'est que si Créon se déjuge, il admet que la petite a eu raison. D'abord, elle est jeune. Il la connaît, il l'avait toute petite. Et puis, enfin, réfléchissons. Oh, c'est une femme. Si les femmes ont raison, alors où allons-nous ? Non, mais ça, le discours de Créon ne cesse de le dire. Et c'est probablement là-dessus que ça accroche, ce qui l'empêche de se précipiter, malgré tout ce que lui dit Tirésias, de se précipiter pour sortir Antigone du trou où il l'a enfermé.
Alors, il faut donc rappeler que, finalement, Créon a trois arguments qu'il reproduit toujours, les arguments d'autorité. On ne conteste pas le pouvoir royal, j'ai raison parce que je suis le roi, et non pas le contraire. De même, vis-à-vis de son fils, il a raison parce qu'il est le père. Et vis-à-vis d'Antigone, il a raison parce qu'il est un homme. Ce n'est pas de la misogynie, c'est un trait de société tout à fait légalisé dans la société athénienne, où les femmes n'avaient pratiquement aucun droit, elles ne pouvaient notamment pas hériter. À aucun moment. Elle ne pouvait pas hériter le pouvoir, évidemment, mais elle ne pouvait pas hériter la fortune. Elle restait mineure jusqu'à la fin de leur vie. D'où d'ailleurs des mouvements de contestation dont Euripide s'est fait notamment l'interprète dans plusieurs pièces, dont la plus célèbre est Lysistrata.
Oui,
donc
c'est
Antigone,
auquel...
Et en fait, Créon rappelle plusieurs fois Antigone, qui est une femme, ce n'est pas une remarque de café du commerce, c'est véritablement un trait social que les Athéniens pouvaient parfaitement approuver, d'ailleurs.
Et alors, j'espère que non. Mais vous savez, on a dit pendant très longtemps que Euripide était un abominable misogyne, parce qu'il y a des discours terribles dans le personnage d'Hippolyte, dans la Phèdre d'Euripide. Ceci étant, vous avez dans Euripide des personnages de femmes absolument extraordinaires. Je vous suggère d'aller lire, vous l'avez déjà lu, d'aller lire Hécube, qui est une pièce superbe, et de faire attention au personnage de Polyxène. Giraudoux a fait Polyxène une petite fille, une petite chipie. Mais, bon, ça, c'est son problème. Mais la Polyxène d'Euripide, c'est quelqu'un d'autre. C'est une très, très grande dame. Bon. Socrate a peint de très grandes dames aussi, certaines diotimées. Bon, c'est une autre affaire.
Alors, ce qu'on vous a dit, c'est que Sophocle, faisant d'une femme son personnage principal, accomplit un acte très novateur socialement, puisque justement, il fait d'un être mineur au sens légal pour toute sa vie, un personnage majeur, qui serait un personnage majeur de la pensée occidentale. Alors il faut rappeler donc que 25 ans avant, Antigone, Eschyle a écrit une pièce sur un sujet voisin, Les Sept contre Thèbes, où il raconte la lutte de Polynice contre Éthéocle, et où figure déjà les deux sœurs, Malakoff la pièce,
Antigone et Ismène. C'est très discuté. Les spécialistes, toujours eux, je me recache derrière eux, les spécialistes estiment que la scène où on voit apparaître Antigone a été inventée par un poète très tardif pour une reprise de la pièce de Sophocle au 4e ou 3e siècle, bien après la création. Mais enfin, c'est vrai que la tragédie. C'est très difficile à penser. Non, mais tu as raison, on est dans une société où les femmes sont considérées comme des mineures. Enfin, c'est une société où on peut dire la femme doit savoir qu'elle quitte la tutelle de son père pour entrer sous celle de son mari. Et comme vous savez, c'est Napoléon qui a dit ça. Bien. Autrement dit, on n'avait pas tellement changé il y a 200 ans par rapport à l'Athènes de cette époque-là. Ceci étant, le discours de Créon est vraiment un discours insultant pour les femmes, je pense.
Oui, mais c'est en même temps un discours légaliste, comme pour l'autorité du père. Oui, après tout, jusqu'à la Révolution française, les pères, dans certaines classes sociales au moins, pouvaient faire emprisonner leurs fils, les faire embastiller. Donc, l'attitude de Créon vis-à-vis des monts se poursuit lorsqu'il s'agit de Mirabeau le père vis-à-vis de Mirabeau le fils, par exemple. On va parler du marquis de Sade. Il y a encore des gens qui sont embastillés par la famille.
Il faut quand même se rappeler que les tragédies à Athènes se jouent dans une ville dont la déesse protectrice est une déesse féminine.
Oui. Oui. C'est vrai. Qui ne figure pas, je crois, dans Antigone.
Non. Bah non.
Alors
on
Aphrodite,
est à terre.
Aphrodite a un rôle très singulier. Tu peux rappeler le rôle d'Aphrodite dans Antigone.
Oh, ça va très vite. Le cœur est extrêmement célèbre. C'est au moment donc où Aemon est parti pour retrouver Antigone, et le cœur chante Eros dans des termes qui sont difficiles. Sophocle n'avait pas lu les troubadours, et ça se voit. Bon, Eros, c'est cette espèce de fureur qui rapproche les femmes des hommes, aussi bien d'ailleurs chez les humains que chez tous les êtres vivants, quels qu'ils soient. Cette puissance d'Eros peut conduire à des catastrophes, c'est certain. Mais les catastrophes que prévoit Tirésias ne sont pas des catastrophes qui sont dues à Eros, elles sont dues simplement à l'obstination d'un tyran, comme on dit. Encore que le mot ne veut pas dire la même chose. Oui, je crois.
Donc le Créon commence en posant une question donc à Tirésias. Et toute la scène est entre ces deux personnages. Qu'a-t-il donc, Tirésias, ta parole me fait frissonner. Tu le sauras, Créon. Écoute les signes qu'obtint mon art. Assis sur mon antique siège augural, où j'ai à ma portée toute espèce d'oiseau, j'entendis des cris inconnus retentir de façon méchante, étrange, aiguë. Je compris qu'ils s'entre-déchiraient de leurs serres meurtrières, car le bruit de leurs ailes était sans équivoque. Effrayé, j'essayai aussitôt des sacrifices sur les autels ardents. Mais le feu ne brillait pas sous les victimes. La graisse des cuisses fondait, suintait sur la cendre, fumait, crépitait. Le foie éclata jaillissant, les os apparurent ruisselants de la graisse qui les couvrait. Voilà ce que m'apprit cet enfant qui est mon guide alors que je guide les autres. Les signes sont muets et mon art impuissant. Or, c'est par ta faute que la ville est malade. Tous nos hôtels, tous nos foyers sont pleins de cette proie des oiseaux et des chiens qu'est le corps du malheureux fils d'Édipe. Alors les dieux n'acceptent plus nos prières rituelles, ni le feu des sacrifices. Les oiseaux ne lancent plus de cris propices, repus qu'ils sont, de la graisse de sang d'un homme tué. Songe-y donc, mon fils. Il arrive à tout homme de faillir. Mais celui qui, tombé dans le mal, veut après la faute s'en guérir et non s'y entêter, n'est sot ni malheureux. La présomption est une maladresse condamnable. Pardonne aux morts. Ne pourfends pas un cadavre. Quelle vaillance y a-t-il à retuer un mort ? Mon conseil est bon et bienveillant. C'est un plaisir d'entendre un bon conseil quand il est profitable. Ô vieillard Tirésias, vous tirez tous sur moi comme des archers sur leur cible. Je ne suis pas épargné par les devins. Me voici trahi et vendu par cette race. Profitez, trafiquez avec l'or blanc de Sardes si vous voulez, ou avec l'or de l'Inde, mais vous n'ensevelirez pas cet homme. Quand les aigles de Zeus prendraient de cette proie pour l'emporter au trône de Zeus, non, je n'aurai pas peur de la souillure, je ne laisserai pas enterrer le corps, je sais que jamais homme n'arrive à souiller les dieux. Ô vieux Tirésias, les plus merveilleux humains, choix de chute honteuse, quand pour un gain ils parent de belles paroles, leurs pensées honteuses. Sache que mes décisions ne sont pas à vendre. Alors à ton tour, Créon, sache bien qu'il n'est plus guère de course où le soleil fera courir son char avant que tu aies fourni aux morts un mort issu de tes entrailles, en rançon pour les vivants que tu as fait descendre chez les morts. Tu as mis sans respect dans la tombe une âme vivante. Et tu retiens ici, loin des dieux souterrains, un mort sans funérailles ni sépulture. Cela ne t'appartient pas, ni aux dieux d'en haut, et c'est de ta part leur faire violence. Voilà pourquoi les maléfiques poursuivantes, les irignées de l'Hadès et des dieux te guettent pour te prendre dans les mêmes malheurs. Regarde. Si l'argent ici me fait parler, il s'écoulera peu de temps avant que n'éclatent des lamentations d'hommes et de femmes chez toi. Toutes les villes sont soulevées par la haine. Leurs morts ont les chiens pour sépulture, ou les fauves, ou quelque oiseau dont le vol porte au foyer de la ville une odeur impie. Voilà. Puisque tu me harcèles, les flèches de colère qu'en bon archer je t'envoie au cœur, et tu n'éviteras pas leur brûlure. Toi, enfant, ramène-moi à ma demeure. Il répandra sa colère sur de plus jeunes et apprendra à nourrir une langue plus calme et une pensée plus sage que celle qu'il a maintenant.
À propos de cette scène magnifique, est-ce que tu veux ajouter quelques...
Il l'apprendra trop tard.
Oui, alors, il faut dire donc que Créon... À ce moment-là, s'effondre.
Enfin, si vous voulez, l'ordre est clair. Il y a le face-à-face Antigone-Créon, suivi de la scène où Antigone, que vous avez dit tout à l'heure, où Antigone est emmené cette fausse mort, où elle mourra réellement, de son propre chef. Il y a ensuite l'entrée d'Aimon, puis Aimon sort, et là, le cœur chante « Amour, amour, qui domine la terre ?» Et puis, entre Tirésias. À ce moment-là, Créon, après le départ de Tirésias, Créon se décide enfin à aller auprès du tombeau d'Antigone, et c'est là qu'il trouve, d'une part, Antigone déjà pendue, et d'autre part, c'est là que Aimon se tue sous ses yeux. La chose est racontée sur le théâtre, racontée en présence de la femme de Créon. Elle s'appelle Eurydice, c'est une coïncidence. En présence de la femme de Créon, donc de la mère d'Aimon. Et ce récit a les conséquences que je vous ai dites. Et c'est après seulement que Créon revient sur scène, ayant tout perdu et n'ayant plus qu'à chanter, ce qu'il fait fort bien. Voilà l'ordre de la pièce. Alors, c'est très curieux, Sophocle a imposé cet ordre. Il y a toutes sortes d'adaptations de l'histoire qui ont été faites par des auteurs variés, en italien, en latin bien entendu, en français, en allemand, etc. etc. Et tous ont suivi ce schéma-là. J'ai oublié, bien entendu, le début, qui est le récit du garde qui raconte comment il a pris Antigone sur le fait, en train de jeter de la poussière sur le cadavre de son frère. Ce schéma-là se retrouve absolument partout, même dans l'opéra, puisqu'on a fait un opéra qui a été enregistré, d'ailleurs, je crois, le Thomas de Traet, un opéra de la fin du XVIIIe, où il y a une plainte d'Antigone qui est très belle. Mais...
même deux opéras, puisqu'il y a l'Antigone de Cocteau
et il y a l'Antigone et l'Antigone de Néguer, absolument. Et on a toujours gardé ce schéma-là, quitte à supprimer une scène ou une autre. Même Brecht, qui a pas mal arrangé les choses, a gardé le schéma, tout en supprimant au passage quelques épisodes. Et Sophocle l'a imposé. Alors, a-t-il inventé la légende d'Antigone ? Enfin, la légende d'Antigone enterrant son frère envers et contre Créon. Peut-être. En tout cas, il a imposé à des dizaines de poètes et de dramaturges ce qu'Aristote aurait appelé le logos du mythe, la structure du récit, si vous voulez. On n'y échappe pas, pour toutes sortes de raisons. Voilà.
Est-ce qu'on va dire quelque chose sur le cœur ? Et le coryphée, d'ailleurs, qui est...
Alors... on a un cœur ici en fait complètement passif, ce qui est parfois le cas, assez souvent le cas, pas toujours. Je crois qu'il est absolument indispensable de se défaire de l'idée qu'il existe un schéma de la tragédie grecque applicable à toutes les 33 tragédies qui nous sont restées, et même à celles dont nous n'avons que des petits bouts. Des tragédies de toute espèce. Le discours sur la tragédie qui est l'effet du destin, et du destin qui doit punir les hommes qui ont joué de l'excès, de l'hubris, comme on dit. Ce discours-là est un discours scolaire qui s'applique dans quelques cas, qui s'applique pas. Les tragédies sont des gens qui ont constamment inventé des choses, et les tragédies grecques sont très différentes les unes des autres. Tu as 33 tragédies à publier les unes à côté des autres. Je suggère aux amateurs de Racine, s'ils ne l'ont pas déjà fait, d'aller lire l'Andromaque d'Euripide, qui est une chose très très belle, qui n'a pas grand-chose à voir avec celle de Racine. Une invention autre.
Ce qui me frappe, pas dans le rôle du cœur ici, c'est qu'il incarne parfaitement la lâcheté de l'opinion publique. Au début, le cœur, et par exemple le chef du cœur, qu'on appelle le coryphée, et qui dirige aussi les mouvements, puisque ce cœur peut être en même temps parfois une troupe de ballet. Et il évolue, comme vous savez, dans ce demi-cercle qu'on appelle l'orchestre ou orchestra, pendant que les acteurs sont surélevés sur la scène, comme on voit dans tous les théâtres gréco-romains qui subsistent à travers le monde. Donc ce cœur est lâche. Au début, Antigone lui fait peur. En tout cas, il ne se soulève pas pour marcher à sa suite en criant « enterrons Polynice ». Il a peur de ce qui peut se passer et tout à coup, il se rend bien compte que Créon va trop loin et que Créon risque d'entraîner ses troupes dans une mauvaise passe, c'est-à-dire vis-à-vis des dieux, de leur faire commettre à tous une sorte de sacrilège. Donc on sent que le cœur, à ce moment-là, commence à se démarquer de Créon. Et à la fin, il se contentera de se lamenter, comme font tous les cœurs tragiques, sur le sort de l'homme qui n'est rien dans la main des dieux. Et il y a aussi, dans le raffinement extrême de Sophocle, ce personnage du garde, qui est un personnage vulgaire, grossier, truculent, qu'on croirait inventé par Anouilh au Giraudoux, et qui est pourtant là, déjà, dès le 5e siècle.
Alors là, il y a une de nos grandes ignorances. Je l'ai dit tout à l'heure, le cahier des charges impose aux personnages chargés de payer de ses deniers les traitements des choristes et des comédiens, personnage qui est chargé de de fournir un spectacle à la cité, le traitement le cahier des charges lui impose de fournir trois tragédies et un drame satirique. Le drame satirique, nous ne savons pas très bien ce que c'est, nous en avons très peu. Il y a un drame d'Euripide, qui est une histoire de Ulysse face au Cyclope. Et puis il y a un bout de Sophocle qui raconte l'histoire de la manière dont Hermès a volé les bœufs d'Apollon. Alors, ou les vaches plus précisément. Bien, mais c'est un tout petit bout. En tout cas, il est certain que les poètes étaient censés fournir aussi quelque chose qui fasse rire. Drame satirique, ça veut dire que le cœur est composé de satires. Les satyres sont remarquables parce qu'ils ont des pieds de chèvre, ça je ne sais pas si ça se voyait, des queues de renard, ça peut toujours s'inventer. Je ne sais pas jusqu'où allait leur ressemblance avec des animaux obscènes, mais enfin, il y avait certainement quelque chose de cela, des corps, bien entendu, c'est la moindre des choses, et ils racontent des tas de choses abominables. Il y a quelque chose de rabelaisien, au moins dans celui que nous connaissons, le cyclope d'Euripide. Les poètes avaient l'habitude de travailler sur du truculent, aussi bien que sur du hautement tragique. Et le garde, ma foi, il n'est pas étonnant qu'il soit un peu truculent. Pour avoir, je crois, une bonne idée de ce que c'est que le drame satirique, il faut lire un faux. On parlait tout à l'heure de la tragédie, de la trilogie d'Eschyle, Agamemnon, les Coéphores, les Euménides, donc qui raconte l'histoire du meurtre d'Agamemnon et de sa vengeance par son fils Oreste. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a qu'il y avait un drame satirique dont on connaît le titre, Protée. Vous savez, le personnage qui change de forme tout le temps. Qu'est-ce que Protée avait à voir avec la légende d'Oreste? Personne n'en sait rien. Un certain Paul Claudel, ayant traduit l'Orestie en entier, a inventé Protée. Et à mon avis, il a raison. Je trouve ça très drôle, et c'est assez truculent aussi. Alors, le garde est un personnage sans... Vous savez, Aristote dit, dans la tragédie, les personnages sont au-dessus de la moyenne. Dans la comédie, ils sont en dessous. Au XVIe siècle, on comprenait... La tragédie, c'est une affaire de prince. La comédie, c'est une affaire de bourgeois. Hein, les princes s'opposant aux bourgeois, bien entendu. Il y a aussi des gens pour dire, alors s'ils n'en sortaient pas, la tragédie met en scène des hommes vertueux, la comédie met en scène des hommes vicieux. Les hommes vertueux, c'est une discussion. Bon, mais le garde serait un personnage de comédie, parce qu'il est... Il n'est pas au-dessus de la moyenne, c'est le moins qu'on puisse dire. Et celui-là, à Neuil, ils sont très bien servis. Alors, pour lui faire autre chose, bien entendu. Oui. Mais ce cœur, effectivement, est un cœur extrêmement, extrêmement passif, comme le sont souvent, pas toujours, les cœurs de tragédie. Il y a souvent, tout de même, une complicité entre le cœur et les personnages principaux. En particulier, le cœur pourrait dire des choses et se garde bien de les dire. Et je crois que sur la scène, ça fait un certain effet. Le personnage, tenez pas dans les cubes d'Euripide, le personnage du scélérat, et Dieu sait, entre sur scène sans savoir ce qu'il attend. Il a devant lui une vieille femme, brisée par le chagrin, elle a perdu tous ses enfants, et elle en avait beaucoup, au moins 19, sans compter les filles. Et puis, 15 femmes qui sont autour d'Hécube, et qui savent le guet-apens que Hécube a organisé, et qui ne diront rien. Je suis convaincu que ça fait un effet scénique formidable. Et là, le cœur n'est pas vraiment pacifié de se taire, c'est entendu. Mais dans Antigone, c'est vrai, le cœur n'est pas du tout convaincu que Créon ait raison. Mais on ne discute pas les ordres du roi. Il doute, tu as sempre ragione. Il y a un peu de ça dans Créon. Voilà. Est-ce que le cœur pourrait se rebiffer contre Créon?
Il n'y a pas d'exemple.
Je ne vois pas d'exemple.
Et par exemple, quand vous dites là que le cœur est passif, on pourrait prendre donc une autre pièce. Dans l'écho et fort, c'est un cœur donc pour vous plus actif. C'est ça?
Dans l'écho et fort, voilà. Il est beaucoup plus actif. Incontestable.
Ouais, chez Eschyle, le cœur est.
Non, dans cette pièce-là. Ouais. Dans les sept contre-Thèbes, au contraire, le cœur est un cœur. De citoyennes de Thèbes qui sont simplement affolées et terrifiées, qui ont peur, et on les comprend, Dieu sait, parce que la situation est terrible. Mais de fait, vous avez parfaitement raison, dans l'écho et fort, là aussi, le cœur sait ce qui va se passer et n'en dit rien. Et on convoque successivement les deux assassins, c'est-à-dire Clytemnestre, donc, qui est la veuve d'Agamemnon, et son amant, Égiste, qui seront estourbis l'un après l'autre par les soins d'Oreste et sous les yeux d'un cœur qui sait très bien ce qui va se passer et qui ne dira rien.
Voilà. Très bien. Est-ce que tu veux terminer en disant un mot du style ou des styles de Sophocle?
Non, je vais dire un mot de Jean Grosjean. Je vais dire une chose très simple. Il y a beaucoup de traductions de Sophocle. J'ai pesté contre Gallimard pendant la plus grande partie de ma carrière parce que, alors que Jean Grosjean est un auteur chez Gallimard, qui travaillait pour Gallimard comme écrivain et autrement, on a publié en Pléiade la traduction d'Eschyle et de Sophocle qu'il avait faite. Jean Grosjean est un poète de toute première importance. Et bien, je ne sais pas pourquoi, dans les collections de poche de Gallimard, on publiait d'autres traductions qui ont quelques vertus, incontestablement, mais qui n'ont pas les mêmes vertus. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que j'étais régulièrement amené, quand je faisais des cours où je parlais de tragédie, à lire des bouts d'Eschyle ou de Sophocle, ça va de soi. Bon, je ne suis pas comédien, hein, mais lire Jean Grosjean, c'est un bonheur. Ça se met en bouche, enfin, tout seul, ça sort tout seul. Il faut la préparer, bien entendu, mais et je pense que c'était un bienfait pour les étudiants. Et tu as eu absolument raison. Alors d'abord, la Comédie française a eu absolument raison de récupérer le texte de Grosjean pour monter l'Antigone en 1990, si je ne me trompe. Je pourrais retrouver les noms des responsables de la chose. Et tu as absolument raison de ressortir, parce que j'étais ravi quand tu m'as dit que tu avais ressorti la traduction de Grosjean pour cette édition de Sophocle. C'est une traduction... C'est une traduction qui est faite pour la voix, qui n'est pas faite d'abord pour être lue. Alors vous me direz, il y a évidemment... Non, pas pour Antigone. Il y a évidemment les traductions de Claudel. Alors celles-là, les traductions de Claudel ont un autre caractère. Il y a des moments où, pour comprendre ce que dit Claudel, il vaut mieux avoir recours au grec. ça n'est pas le cas du tout pour celle de Grosjean. Elle est, je crois, claire, enfin, il me semble, non, c'est ta position. Et elle est merveilleusement rythmée, mais réellement rythmée. Pas tagada, 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 tagada. Non, c'est la tragédie qu'on a jouée en 1842 ici. À ce moment-là, il n'était pas possible d'imaginer une tragédie qui ne soit pas en vers rythmée et rimée. Non, elle n'est pas rythmée. Il y a de temps à autre un alexandrin. De temps à autre. Mais juste ce qu'il faut. Et c'est vraiment un très beau texte. Et qui sert, je crois, Sophocle, lequel alors a une métrique très... Bon, on va revenir au début. Je dire la métrique de d'Eschyle, le vers d'Eschyle, il est quand même un petit peu coincé. Ça tombe bien en place. Le vers de Ripide, il a un petit peu tendance à s'en aller. Il y a des moments où on n'arrive plus à retrouver exactement la mesure. Le vers de Sophocle, c'est la sérénité parfaite. Ceci étant, sa langue n'est pas toujours commode, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a bien quelques passages sur lesquels les spécialistes continuent à se crêper le chignon, mais ça, c'est parce que c'est des spécialistes.
Merci beaucoup, merci Marie, merci Jean-Louis. Nous donnons rendez-vous au début de février, je crois que c'est le 4, pour l'exil de Joyce.